Bonjour, bienvenue pour la dernière table ronde de cette quatrième édition. Donc une table ronde un petit peu politique, mais on va parler quand même. Le but, c'est de parler de livres. On a des romanciers avec nous, on n'a pas des journalistes. Donc je vais vous présenter un peu ces quatre personnes qu'on a là. Donc à mon extrême gauche. Alors il a prétendu qu'il avait un problème à l'oreille gauche et que donc il était obligé de s'asseoir là. Je ne suis pas certain que ça soit la vraie raison, mais il voulait être à gauche de Jérôme Leroy, surtout. Donc on a Serge Quadrupani, que vous connaissez ou pas, comme auteur, et aussi comme directeur de collection, et aussi comme traducteur. Enfin, il a beaucoup de casquettes. Là, il est là en tant qu'auteur. Et la dernière série de romans qu'il a écrit ont pour personnage une commissaire anti-mafia, qui, parce qu'elle est un peu en délicatesse avec son... avec sa hiérarchie, elle commence à faire des enquêtes à Rome où elle est basée, et puis finalement plus ça va, plus on l'éloigne de Rome, et le dernier roman on l'a même elle est en vacances à Paris, mais ce qui l'empêchera pas d'enquêter. Ensuite Jérôme Leroy, qui lui dans son dernier roman Le Bloc, alors je sais pas si c'est prémonitoire, on espère tous que non, mais avec peut-être pas beaucoup d'espoir. C'est nos amis, c'est très désagréable. Il nous plonge dans la tête de deux militants du Front National, enfin, du Bloc National, du Bloc Patriotique. Ça s'appelle le Bloc. Un est une sorte d'idéologue qui écrit les discours, un peu un gars cultivé et assez cynique. Et le deuxième, c'est le chef des services de sécurité, qui lui est pas très cultivé, qui est plutôt, qui a une certaine violence en lui. Donc, on va passer une nuit dans la tête de ces deux personnages au moment où des ministres du Bloc patriotique sont en train de négocier leur entrée dans un gouvernement de droite. Ensuite, Olivier Bordassa. Lui, sur le même constat, toujours, vous avez vu le débat, c'est... je ne sais plus ce que c'est d'ailleurs, c'est la France va mal et ils en parlent, voilà, en gros, ou la France ou le monde, ils en parlent. Lui, il part dans une petite ville de province, Nogent-les-Chartreux, je ne sais pas si ça existe ou pas, non, ça n'existe pas. Donc nous allons à Nogent-les-Chartreux, petite ville calme pour ne pas dire endormie ou anesthésiée, et qui se réveille malheureusement avec une sale gueule de bois, parce qu'il y a un serial killer, bon... Et ce n'est pas très important ce serial killer finalement, ce qui est important c'est ce qu'il révèle de cette petite ville et qui va tourner au fascisme, petit à petit avec des milices, avec voilà, l'utilisation, instrumentalisation de la peur. Et le dernier c'est Karim Madani,
à l'extrême droite.
Enfin, pour vous il est à l'extrême gauche ceci dit. Hein. Non mais pour vous il est à l'extrême gauche, donc tout est relatif. Lui il nous amène lui aussi dans un lieu imaginaire, c'est un lieu imaginaire lui aussi. S'appelle Orchestra, c'est une banlieue qui ressemble à beaucoup de banlieues de grandes villes où voilà, avec ghetto, enfin des parties entières laissées à l'abandon, aux junkies, au trafic de drogue, à la pourriture, mais des parties qu'on est en train de nettoyer petit à petit parce qu'il faut y implanter des Starbucks, des bars à sushis, et puis parce que bah, finalement quand le centre-ville devient vraiment beaucoup trop cher, ceux qui la classe moyenne haute ou moyenne, elle finit par aller attraper ces lieux, donc il faut virer ce qui était là avant. Voilà, donc quatre auteurs qui ont traité ce problème de que tout va mal. Il y a des gens qui disent que quand la France va mal, quand le pays va mal, la situation, le roman noir va très bien. Donc qui veut commencer pour voir un peu comment vous avez choisi d'attaquer ce problème, par quel biais vous avez, pourquoi vous avez fait le choix que chacun vous avez fait, qui sont tous différents, vous avez vu, pour attaquer un peu cette description de ce qui va mal. Alors, si personne ne veut commencer, je vais donner la parole à Karim, qui est arrivé le dernier.
Ok, ouais. Bonjour à tous. Alors, je vais faire une petite précision. Ma ville, ce n'est pas une banlieue, hein, c'est une ville. C'est une métropole, voire une mégalopole, qui est une espèce de mix de patchwork entre Paris, New York, enfin des grosses métropoles, mégalopoles avec cosmopolites et multiculturelles, avec beaucoup de ségrégation spatiale, urbaine et tous les problèmes inhérents à ce genre de ville. Et moi, en fait, tout à l'heure, tu parlais de quoi déjà? Ouais, tu disais ouais, qu'il n'y avait pas de. Enfin, moi, je veux dire, on n'est pas des. Effectivement, on n'est pas des. Enfin, bon, pour ma part, moi, j'étais journaliste, mais dans la presse musicale, donc je ne suis pas un journaliste politique. Et, je suis surtout pas un sociologue et je suis surtout pas j'ai pas fait le roman en tant que, enfin, s'il y a aucune sociologie là-dedans. Je veux dire, le fait est que tout va mal. Enfin, moi j'aime bien quand tout va mal déjà. Je trouve ça pas mal. Bon, en tout cas, quand on écrit un roman noir, c'est on est plus dans une bonne condition psychique. Et le bouquin, moi, c'était à l'origine de la ville d'Arquestra. C'était plutôt déjà un petit hommage à Ed McBain. Donc j'ai payé mon hommage à Isola et aux flics du 87e district. Et ensuite, il y avait aussi l'idée qui était en filigrane. Parce que je pense que moi, ce qui est intéressant dans le roman noir, c'est que tu peux vraiment parler de tout. Il faut parler de la noirceur de l'âme humaine, de la déchéance de l'être humain, d'une mutation sociale, sans vraiment qu'il y ait, sans filigrane, donc sans vraiment sortir la grosse artillerie du roman à message, qui me fatigue un peu, qui me saoule un peu. Et l'idée, en fait, était, en filigrane, moi, ce qui m'intéresse, c'est les mutations. Ouais. Moi, je viens de Paris, 13e arrondissement. C'est un quartier que j'ai vu évoluer, en fait. Moi, je suis né, j'ai grandi entre la porte de Choisy et la porte d'Ivry, donc dans le quartier chinois de Paris, qui a été grignoté de plus en plus en fait, par les promoteurs immobiliers, qui a perdu une partie de son âme. Et le processus de gentrification que j'avais aussi découvert dans les années 90 à New York. Moi, quand j'ai vu, je me souviens, j'ai connu la 42e rue, où c'était vraiment taxi driver encore, avec des putes et des macs, des mecs qui ont la bœuf à tous les coins de rue. Aujourd'hui, il y a des magasins M&M's, c'est un peu Disneyland. Et Paris, c'est aussi Paris, tend vers ça. La ville perd vachement de son âme. Et du coup, moi, dans le bouquin Arquestra, ça me permet aussi de parler de ces mutations de la ville. Les promoteurs immobiliers, l'embourgeoisement. Mais en même temps, comme tu disais tout à l'heure, justement, le problème est que le trafic de cam, il est plus dans le 19e, mais il va aller un peu plus vers la Seine-Saint-Denis. Donc tous les mecs partent, les dealers partent, se barrent. Mais bon, ils prennent 4-5 rues, donc tu vois, plus haut, plus bas, plus au nord. Donc il y a aussi cette idée de la ville aussi un peu Léviathan. Et après, ça, c'est mon petit caprice d'auteur. Je voulais aussi être l'architecte de ma propre ville. Moi, j'adore la ville. Et je voulais aussi pouvoir placer une cathédrale européenne, genre Notre-Dame de Paris, à côté d'un pont métallique à la Williamsburg, et avec un quartier un peu asiatique, genre Hong Kong. C'était aussi l'intérêt de pouvoir inventer une ville. C'est vraiment de s'amuser. C'est vraiment un laboratoire en termes de construction d'une ville imaginaire. Voilà.
Suivant. Alors là, on fait le grand écart parce qu'on parle de la mégapole et on va s'enterrer.
Ouais, moi j'aime pas la ville. Donc je suis parti vivre à la campagne et je me suis aperçu que c'était pareil. À une autre échelle, quoi. Moi j'ai voulu décrire une petite ville de 20 000 habitants. Une ville comme, je sais pas, Vierzon par exemple, vous voyez. C'est naze, quoi, Vierzon. Et j'ai essayé de traiter cette ville comme... en écrivant, je me suis aperçu que cette ville devenait une sorte de corps humain, avec ses artères, son cœur de ville, etc. Il y a un lexique commun au cœur humain et à la ville, sauf que le corps humain ne fonctionne pas avec des frontières hermétiques. Vous imaginez s'il y avait des frontières hermétiques dans votre corps, enfin, tout deviendrait pourri très vite, quoi. Et en revanche, dans cette ville, les frontières sont extrêmement hermétiques et ça fonctionne par cercle concentrique. C'est-à-dire qu'il y a le cœur de ville avec la petite bourgeoisie proprette et puis un deuxième cercle avec des classes moyennes et puis après il y a la périphérie et puis un peu plus loin la cité et puis un peu plus loin les dernières fermes des paysans rescapés et tout ça fonctionne comme si ces frontières étaient absolument comment dire quand on habite dans la cité du bas, à Nogent-les-Chartreux, il y a la cité du bas. Et Français d'en bas, cité du bas. Et donc, ces gens-là habitent là et ne peuvent absolument pas atteindre le cœur de ville, puisque ce n'est pas fait pour eux, quand même. Puis ça fait tâche. Voilà. Donc, comme disait Jean-Marc, la présence d'un tueur en série dans cette ville... Alors le tueur qui sème des cadavres un peu partout est vraiment, c'est un prétexte pour raconter la déliquescence des rapports humains, des relations. Et c'est une occasion pour les habitants de cette ville qui est en train de pourrir sur pied, de régler des comptes, de se barricader, de se méfier les uns des autres, de désigner des populations à stigmatiser en priorité, voilà, etc., etc. Et en même temps, il y a... Moi, j'aime bien situer les actions. C'est le deuxième roman que j'écris avec des élections. Il y a toujours des élections. Hein. Il y a toujours des gens qui va falloir élire, va falloir choisir. Donc voilà, les gens se retrouvent tout seuls dans leur isoloir. Pour citer Sartre, élection piège à con, on est tout seul dans un isoloir. Mais qu'est-ce que ça veut dire d'être seul dans un isoloir alors que les choix devraient se faire de manière collective? Bon, bref. Voilà, Nogent les Chartreux, dans la Beauce. J'avais besoin d'un territoire plat, donc vous êtes servi. À toi, Jérôme.
À toi, Jérôme. Alors, élection piège à con, ça rebondira bien avec ton voisin, mais pour l'instant, c'est toi. Et toi, tu nous mets au cœur du système politique.
Oui, enfin, en tout cas, j'essaye. C'est-à-dire que c'est comme les deux précédents intervenants, j'ai eu besoin d'un angle de tir, si je puis me permettre, pour parler de la société française aujourd'hui et même des 30 dernières années qui ont amené, à mon avis, à une période où il y avait encore un vague vouloir vivre ensemble à la fin des années 70 et jusqu'à une époque comme la nôtre qui est profondément marquée par la peur, par des communautarismes, par des oppositions. Donc j'ai voulu traiter ça de manière nationale, si je puis dire. Et pour ça, j'ai choisi une nuit d'émeute, des semaines et des semaines d'émeutes, un gouvernement aux abois et qui décide de faire rentrer l'extrême droite au pouvoir, autant peut-être pour la piéger que pour se sauver lui-même. Ça va être aussi un des enjeux. Et l'intérêt pour moi a été d'imaginer finalement en France une situation qui s'est hélas produite dans l'histoire et qui s'est produite même très récemment en Europe. C'est la façon dont et l'extrême droite et la droite sont entrées en pleine mutation idéologique, c'est-à-dire qu'on est vraiment on est face à des objets non identifiés. C'est à mon avis le symptôme et la conséquence des ravages du capitalisme et la politique devient un roman noir dans ce cadre-là. C'est-à-dire que un de mes personnages a affronté jeune homme toute la fin de la sidérurgie, non pas en Lorraine mais dans le Nord, ce qui n'a été guère mieux. L'autre a fait son petit bonhomme de chemin à travers une formation d'extrême droite moitié par cynisme, moitié par veulerie, parce qu'il était là à ce moment-là, et on se trouve comme ça face à des personnages qui sont réellement des mutants par rapport à ce qu'on a pu connaître. Et je crois que le roman noir dans lequel on s'inscrit plus ou moins tous les quatre est un roman noir qui s'inscrit dans une tradition qui est celle de Dashiell Hammett pour les Américains, qui comme par hasard commence à Moisson Rouge date de 1929, période de grande crise économique, ou Manchette pour la France qui parle de la France des années 70 avec sa gueule de bois post-68arde et son retour à l'ordre. Eh bien, aujourd'hui, je pense que le roman noir est en forme, ou les romans noirs tels que peuvent en écrire Serge, Olivier ou Karim, est particulièrement en forme parce que précisément, les choses, ça ne va pas bien. Les gens ne vont pas bien et la société ne va pas bien. Et ce qui domine, ce que j'explique en tout cas au début du roman, ce qui explique tous les cauchemars, c'est qu'en plus, c'est une forme de peur généralisée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement celle de l'insécurité, mais qu'il y a la peur de l'insécurité sociale, l'insécurité identitaire, complètement à tort évidemment, avec l'idée qu'on se replie uniquement sur des clans. On raisonne en termes de bandes, de clans, d'ethnies et d'appartenance religieuse, enfin des choses qui sont du pain béni pour tous les extrémismes et tout le système, puisque effectivement ça divise les résistances possibles. Voilà.
Oui. Bon, il y a une expression, j'aime bien tout ce qui a été dit, sauf qu'il y a une expression qui a été dite par mon petit camarade à ma droite. C'est tous les extrémismes. J'aime pas du tout quand on dit tous les extrémismes. Parce que...
Les extrémismes de droite. Pardon.
Voilà. Parce que les extrémismes de droite et les extrémismes de gauche, c'est pas exactement la même chose. Et voilà. Et sinon, mon bouquin, je suppose que c'est à propos de ce bouquin-là que je suis invité.
En fait, il n'y a pas que la France qui va mal, l'Italie aussi. Donc,
voilà, mon bouquin, Madame Courage, il démarre par trois prologues. Vous avez trois prologues pour le prix d'un. Le premier prologue se déroule dans le Val de Suse, ce qui est une vallée du Piémont où depuis 20 ans se bat une population contre le passage d'un TGV, d'une nouvelle ligne de chemin de fer, parce que c'est une vallée qui est agressée par une série, par déjà une voie de chemin de fer, des lignes à haute tension, une autoroute, une très belle vallée piémontaise, mais qui est quand même largement déjà agressée. Et il y a le projet de TGV Lyon-Turin qui doit percer une montagne qui est remplie d'uranium et d'amiante. Et donc cette population se bat contre ce projet depuis 20 ans. Et donc le premier prologue se passe là-dedans. Et c'est là qu'apparaît notre commissaire qui est en quête des beaux yeux bleus d'un apiculteur qu'elle a rencontré dans le précédent roman. Mais c'est pour l'interroger sur des questions qui concernent son enquête. Et le deuxième prologue se passe en Sicile, à Palerme, autour de la rencontre entre différentes puissances occultes, c'est-à-dire les puissances financières qui ont pris le pouvoir aujourd'hui, parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais aujourd'hui en Italie, il y a un gouvernement qui n'a pas été élu, qui a été désigné par l'Europe, et tout le monde trouve que c'est absolument merveilleux. Enfin, un gouvernement sérieux qui ne perd pas son temps avec des machins populistes. Ça, c'est aussi un mot sur lequel qui est souvent très discutable. Et donc des représentants de ce gouvernement rencontrent un très gros mafieux, et cette rencontre est troublée par l'intervention d'un policier. Et le troisième prologue se passe à la frontière entre la Tunisie post-révolutionnaire et l'Algérie. Donc vous avez bien compris que je parle exclusivement de la France dans ce roman. Mais c'est évident que pour parler de la France aujourd'hui, on ne peut pas se contenter de ce qui se passe dans les frontières. Quoi qu'on raconte... on est obligé de parler des effets de ce qui se passe dans le reste du monde. Dans ce que j'ai écrit, j'ai toujours cherché à parler à la fois de ce qui se passe en bas de chez moi et de ce qui se passe à l'autre bout de la planète et en quoi l'un et l'autre sont liés. Voilà. Et donc, un des sujets qui revient beaucoup dans ce dernier roman, c'est... le rôle des terroristes islamistes. Il y a une blogueuse tunisienne qui est un peu ma porte-parole dans le bouquin et qui dit les salafistes sont les idiots utiles de tous les pouvoirs. Bon, par exemple, il faut savoir qu'en Tunisie, les salafistes sont payés sont financés en grande partie par le Qatar, qui est le grand ami de la France, que vous savez qu'il doit investir dans les banlieues françaises, qu'il met aussi de l'argent dans le prix de l'Arc de Triomphe, et si bien qu'il y a eu il y avait un apéritif qui était offert au prix de l'Arc de Triomphe avec une séance de dégustation de produits qataris qui étaient, et les hôtesses étaient en niqab, mais en niqab en public. Je ne sais pas, normalement ça c'est interdit, mais la police, je ne sais pas pourquoi, n'est pas intervenue sur ce coup-là. Elle intervient volontiers dans les banlieues, mais là, au prix de l'Arc de Triomphe, elle n'est pas intervenue. Et donc, c'est les intégristes, tout ce qui se passe dans cette zone est absolument passionnant, parce que les révolutions arabes ont été un très grand espoir et puis qui a fait croire à beaucoup et qui a été un déclencheur pour toutes sortes, qui a eu des effets en chaîne dans le monde entier. Et comme par hasard, alors que les gens s'étaient révoltés, ne réclamaient absolument pas la charia ou ce genre de choses, ceux qui sont en train de prendre le pouvoir, ce sont des intégristes. Et donc il y a des puissances financières derrière tout ça. Et donc j'essaye de parler un peu de tout ça. Je parle de choses que j'ai essayé d'aller voir de près. Je suis allé à plusieurs reprises en Tunisie, dans la Tunisie post-révolutionnaire. Je suis allé pas très longtemps après la révolution. Je suis allé encore il y a pas très longtemps. Et j'ai pu voir de près qu'il y a à la fois un travail très délibéré de casser et de capter l'énergie révolutionnaire dans la fantasmagorie religieuse intégriste. Qu'il y a encore énormément de populations qui sont pas prêtes à se laisser faire et qui sont toujours prêtes à se battre contre le pouvoir actuel qui grâce aux salafistes paraît modéré alors qu'il poursuit un programme de d'islamisation de la population et tout ça a l'air extrêmement éloigné de la France et ben je me permets de vous dire pas du tout. Et donc, je vous convie, entre autres, à lire mon bouquin pour vous rendre compte à quel point ça nous concerne.
Ça donne bien la transition.